Bonsoir. Nous allons commencer la réunion. Je vous invite à éteindre vos téléphones si ce n'est pas fait. Alors, je vais faire les présentations. Nous sommes d'abord très heureux d'accueillir aujourd'hui à Bordeaux pour cette réunion publique de soutien à la liste ouvrière pour les élections européennes notre camarade Nathalie Arthaud. À ses côtés, Sandra Torremocha. Qui conduira la liste sud-ouest à ces élections européennes. Et moi-même, Guillaume Percher, qui sera à ses côtés. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Sandra Torremocha.
Camarades et amis, on entend bien ?
Oui,
très bien.
Mais qui peut avoir la naïveté de croire que les élections européennes peuvent changer quoi que ce soit au sort des travailleurs ? L'élection présidentielle a montré à ceux qui ont cru au changement maintenant qu'il était illusoire de compter sur les élections pour changer la vraie vie. Combien des nôtres, combien de travailleurs se sont sentis trahis, trompés par les dirigeants du Parti socialiste, par Hollande et ses promesses contre le règne de la finance. Et combien se sont fait abuser par ceux qui ont cautionné cette mascarade, alors qu'il était clair que Hollande au pouvoir pouvait être pire que Sarkozy du fait de la crise. Aucun gouvernement ne succombe aux pressions électorales qui vont contre l'intérêt des capitalistes. Ce ne sont pas les tonnes de papier que représentent les bulletins de vote qui impressionnent les serviteurs politiques de la bourgeoisie. Il suffit de voir les conséquences de la grande baffe électorale qu'a reçue le gouvernement socialiste lors des dernières élections municipales. Cela ne lui a fait ni chaud ni froid de perdre des centaines de milliers d'électeurs de gauche qui, pour beaucoup, se sont abstenus. Sa réponse n'a pas été de nommer Mélenchon Premier ministre pour calmer les déçus de sa politique, mais de choisir Valls, qui est aussi socialiste que le nouveau secrétaire général de l'Élysée, Patrick Jouyet, ex-secrétaire d'État sous Sarkozy. Non, les élections ne changent pas la vie. Et l'électoralisme est un poison distillé par les réformistes qui se contentent de vouloir gérer le système capitaliste avec des discours parfois sociaux, mais au fond, avec la même politique pro-patronale que celle des gestionnaires de droite. Avec Hollande au pouvoir, la population laborieuse a pu vérifier qu'au fil des mois, les discours étaient les mêmes que ceux de la droite et surtout que les coups allaient dans le même sens, contre les travailleurs et les petites gens, contre ceux qui essaient de vivre de leur travail quand ils en ont un. Comme les gouvernements précédents, les dirigeants socialistes font mine de concilier les intérêts des capitalistes et des travailleurs, ce qui est bien évidemment absolument impossible. Comment concilier les intérêts de l'ouvrier sur chaîne de Peugeot Citroën Olney et celui de Monsieur Peugeot ? Comment concilier les intérêts de la caissière à mi-temps de Carrefour avec ceux de Bernard Arnault? Dans les années 80, les ministres socialistes affirmaient, pour justifier les débuts de l'austérité pour les travailleurs, je les cite, « les profits d'aujourd'hui seront les emplois de demain ». Et Hollande, à l'époque, faisait partie d'un club d'énarques socialistes vantant déjà le social-libéralisme et la réhabilitation de l'entreprise. Aujourd'hui, il prône la même union sacrée entre travailleurs et capitalistes au nom de la compétitivité des entreprises. Les mots sont différents, mais la politique est la même. Il faudrait se sacrifier pour permettre aux patrons de s'enrichir. Et cyniquement, on nous dit que c'est pour notre bien. Eh bien, il n'en est pas question. Face à la crise de leur système, c'est eux ou c'est nous. ce sont leurs profits ou nos conditions de vie. Leur système économique, c'est leur problème. Pour nous, il n'y a pas d'arrangement possible entre les exploiteurs et les exploités. Pour nous, une seule chose compte, quelles que soient les circonstances, les exploités d'abord. Au bout de 2 ans de ce gouvernement au service du grand patronat, il n'y a plus à démontrer qu'il pouvait être pire que le précédent. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'une bonne partie des nôtres ait choisi de s'abstenir aux élections municipales pour désavouer ce gouvernement auquel on leur avait fait croire en 2012. Mais ce désaveu venant pour partie de l'électorat de gauche a donc été détourné, manipulé. Il s'est traduit en fait par un retour en fanfare de la droite qui a pris des centaines de villes à la gauche, bien qu'elle ait stagné électoralement. Et bien des travailleurs qui s'étaient abstenus pour infliger un camouflet au gouvernement ont été dépités de voir que grâce au système électoral, c'est la droite qui a finalement engrangé le résultat de leur abstention. Et bien, lors des élections européennes du 25 mai, choisir de s'abstenir sera tout aussi récupéré électoralement par la droite, voire par l'extrême droite. Pour ceux qui ne veulent pas voir leur opinion récupérée contre leurs intérêts, il y aura un autre choix dans toutes les circonscriptions de cette élection européenne en votant pour les listes lutte ouvrière. Même minoritaires, leur message ne sera pas récupéré et le drapeau de l'opposition ouvrière sera planté. Ce sera un vote sans ambiguïté et ce sera le seul vote utile pour l'avenir. Pour les travailleurs qui ne veulent pas subir, qui veulent exprimer leurs exigences de classe, les élections sont des combats politiques qu'ils doivent utiliser. Ils doivent mettre à profit la liberté de parole, le peu de démocratie qui existe dans cette société, pour s'exprimer, pour défendre leurs idées, pour les faire connaître et pour y gagner le maximum d'autres travailleurs. Nous n'ignorons pas que le combat est inégal, tant la bourgeoisie a un panel impressionnant de représentants politiques, de Hollande à Le Pen. Même le Parti communiste et Mélenchon ne conçoivent leur politique que dans le cadre de ce système et ont depuis longtemps renoncé à compter sur les mobilisations populaires pour changer la vie. Bien sûr, c'est recréer un parti qu'il faudrait au monde du travail, un nouveau parti communiste révolutionnaire, un parti qui défende ses intérêts sociaux et surtout politique, et c'est possible. Et c'est aussi avec cet objectif que nous participons à tous les combats politiques que nous procure la démocratie bourgeoise. Le camp des travailleurs ne doit pas compter sur les élections pour changer la vie, mais il doit proposer une politique à l'ensemble des travailleurs, même au travers d'élections dont le caractère antidémocratique est indiscutable. Il y a le mode d'élection et le découpage électoral. Il y a le fait que bien des travailleurs ne peuvent voter du fait de leur nationalité. Il y a le mépris social des grands médias pour tout ce qui concerne la vie et la lutte des travailleurs. Ceux qui ont le plus la parole, les laudateurs de ce système, ils déforment toutes les idées, les faits sociaux, la réalité. Et la bourgeoisie, ça va, on l'entend. On entend même qu'elle, avec toutes ses variantes politiques, avec tous ses serviteurs politiques, devrait tourner. Malgré cela, il faut faire entendre l'autre camp, le nôtre, celui des travailleurs. Il faut que les travailleurs prennent l'habitude de se faire entendre eux-mêmes, sans s'en remettre à tous ces sauveurs suprêmes qui, une fois élus, se mettent au service des intérêts des riches et des puissants. Il faut que les travailleurs affirment leurs revendications essentielles face à celles de la bourgeoisie. Se faire entendre dans les élections ne remplace pas les luttes sociales d'envergure, les grèves qui font tache d'huile, les situations d'explosion sociale qui seules peuvent mettre en cause le pouvoir réel de la bourgeoisie. Mais c'est un terrain où on peut planter le drapeau de la révolte sociale nécessaire pour nos revendications vitales. C'est une occasion où nous pouvons mettre notre grain de sel, nous, les travailleurs. Et cela joue quand même un rôle dans le rapport de force. Surtout quand s'exprime à l'occasion d'une élection une opinion mettant en cause le règne de la bourgeoisie et que cette opinion vient de l'électorat ouvrier, c'est-à-dire de la seule classe qui a un poids social pour menacer réellement la bourgeoisie. C'est déjà un élément du rapport de force. Cela ne remplace pas le rapport de force réel, la confrontation réelle de la classe ouvrière avec la bourgeoisie, mais cela aide la classe ouvrière à prendre conscience de la nécessité d'en passer par là. C'est pour cela que nous cherchons à faire le maximum de voix lors des élections européennes à venir. Oui, il faut faire entendre le camp des travailleurs. C'est cela qui comptera lorsque les travailleurs commenceront à rendre les coups, quand ils chercheront des revendications à mettre en avant pour leur mouvement. Alors, ceux qui aujourd'hui ne sont pas résignés à subir, alors que la bourgeoisie tient le haut du pavé, eh bien, ils doivent s'exprimer. Il faut affirmer que s'il y a une catégorie sociale qui a le droit de vivre dans cette société, c'est avant tout celle des producteurs. Si les capitalistes disparaissaient du jour au lendemain, le monde ne s'en sortirait pas plus mal. Par contre, s'il n'y avait plus personne pour produire, toute la société s'écroulerait. Les travailleurs ont donc le droit moral et même le devoir de défendre leurs exigences, et ils pourront le faire en votant pour Lutte ouvrière. Et la première exigence, c'est d'affirmer que le chômage n'est pas un mal nécessaire, mais un cancer social dont on peut se débarrasser. Pas en aidant les entreprises à être plus compétitives, pas en arrosant le patronat de subventions qui ne leur servent qu'à investir dans la finance plutôt que dans la production. Mais pour commencer, en interdisant tout simplement les licenciements, ne serait-ce que pour arrêter l'hémorragie des emplois. On interdit bien les expulsions locatives pendant les mois d'hiver pour ne pas mettre à la rue ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer. Eh bien, en temps de crise, pour un travailleur, perdre son emploi, c'est aussi être menacé de la rue. C'est intolérable et on doit l'interdire. Cela ne créera pas un emploi de plus, certes, mais au moins cela n'aggravera pas le mal. Et pour créer les emplois qui manqueraient, on peut très bien répartir le travail entre tous avec maintien du salaire. Il est tout aussi intolérable que les rythmes de travail augmentent pour ceux qui en ont un, comme c'est révoltant par exemple que l'on supprime les journées de RTT chez Renault Flin tout en menaçant des centaines d'intérimaires de retourner à la galère et à Pôle emploi. Il est intolérable d'accroître la fatigue, l'épuisement, le stress, les risques d'accident, les maladies professionnelles comme les TMS, les troubles musculo-squelettiques, alors que des centaines de milliers de travailleurs sont au chômage. Imposer la répartition du travail avec maintien du salaire, c'est nécessaire pour la survie de notre classe. Alors, bien sûr, imposer ces deux mesures, c'est s'ingérer dans les affaires de la bourgeoisie. C'est même s'en prendre au droit de propriété. Car voyez-vous, dans cette société, les travailleurs et leurs conditions de travail sont la propriété de leur patron. Ce n'est pas formellement de l'esclavage, peut-être, car on est libre de démissionner. C'est la liberté de choisir entre se crever au boulot ou tomber dans la misère. Eh bien, c'est cela l'esclavage salarié, et il n'y a aucune raison pour les millions de travailleurs qui font tourner la machine économique de l'accepter. Alors, interdire les licenciements et répartir le travail entre tous, quoi qu'il en coûte au patronat, c'est une exigence vitale. Et tant pis pour ce qu'ils considèrent être leur propriété privée, et tant pis pour leur compétitivité. Ils n'ont qu'à diminuer leurs profits et les dividendes de leurs actionnaires. Les voilà les seules variables d'ajustement qui sont acceptables. Une autre exigence des travailleurs, augmentation générale des salaires. Et on ne veut pas d'un coup de pouce. On veut pouvoir vivre décemment de notre travail et ne plus attendre avec angoisse les fins de mois qui commencent bien souvent le 15. Non seulement les salaires n'augmentent pas, mais en plus, grâce aux dispositions prises par le gouvernement dans l'ANI, l'accord national interprofessionnel, voté comme un seul homme par les députés socialistes, le patronat pourra les diminuer à sa guise. Et il ne s'en prive pas, car tout est bon pour taper dans notre gagne-pain. Sortir les pauses du temps de travail, réduire le nombre des RTT, cela signifie accroître le temps de travail ou diminuer le salaire, ou les deux. Et le gouvernement montre l'exemple en gelant les points d'indice dans la fonction publique depuis des années. Oui, il faut une augmentation générale de tous les salaires, des pensions et des indemnités de plusieurs centaines d'euros. Et c'est possible, cela ne mettrait même pas sur la paille le grand patronat qui croule sous les profits et qui distribue des dividendes en hausse constante. Un seul exemple, eh bien le groupe Safran, qui possède Héraclès ici à Bordeaux, les Snecma en région parisienne ou Labinal à Toulouse. Pour 2013, l'augmentation du bénéfice brut a été de près de 24%. Il s'élève, tenez-vous bien, à 1,788 milliards d'euros. C'est-à-dire que chacun des 66 200 salariés revendiqués par le groupe Safran à travers le monde, chacun de ces salariés a rapporté en 2013 la somme de 27 000 euros, soit 2 000 euros par mois. Ça donne le vertige et ça donne aussi la haine quand l'augmentation octroyée cette année tournera autour de 30 euros. C'est une vraie provocation alors que l'Assemblée générale des actionnaires devrait décider une augmentation du dividende par action de 17%. Et j'aurais pu prendre bien d'autres exemples, comme Airbus Group, dont le but affiché et revendiqué, c'est même d'aller vers des marges de plus de 10%, quitte à sacrifier des centaines d'emplois dans la sous-traitance. Et des exemples comme cela, il y en a dans tous les groupes du CAC 40, ceux qui font la pluie et le beau temps dans ce pays. Alors, réclamer et se battre pour une augmentation générale des salaires, c'est peut-être un non-sens économique dans le cadre de ce système capitaliste où seul le profit est intouchable, mais pour les travailleurs, c'est une question de survie. Alors, au diable leur plainte sur l'ingérence intolérable qu'une augmentation des salaires représenterait dans la marche de leurs affaires, le non-sens, c'est leur économie. Garantir que ces augmentations ne soient pas grignotées par les hausses de prix, il faut imposer l'indexation des salaires sur ces hausses. Cela nécessite d'abord de s'opposer aux dernières mesures de Valls qui consistent à désindexer de l'inflation les retraites et les prestations sociales. L'échelle mobile des salaires, ce n'est pas un gros mot. C'était même une revendication du mouvement syndical quand il n'accompagnait pas cyniquement les attaques contre le niveau de vie des travailleurs et surtout quand la bourgeoisie pouvait encore considérer qu'elle avait besoin de donner du grain à moudre aux syndicalistes. Aujourd'hui, la bourgeoisie se sent tous les droits tellement elle considère qu'elle n'a aucun opposant à son pouvoir. Eh bien, les travailleurs doivent imposer leur droit de vivre, tout simplement. Obtenir l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous avec maintien du salaire, comme l'augmentation générale des salaires et pensions et leur indexation sur la hausse des prix, gagner cela ne se fera pas au travers d'une négociation à froid entre partenaires sociaux, hein, comme ils disent tous maintenant. Les syndicalistes se traitent peut-être de partenaires, mais les travailleurs n'ont pas de partenaires chez leurs exploiteurs, ils n'ont que des adversaires. Pour arracher ce qui n'est pourtant qu'un minimum, il faudra des luttes sociales générales qui embrasent l'ensemble des catégories de travailleurs pour les imposer. Car effectivement, il s'agit de s'en prendre à la dictature de la bourgeoisie sur l'immense majorité de la population travailleuse. Et cette majorité de la société, nous, les travailleurs, qui par notre travail faisons tourner la machine économique, nous devons également avoir des exigences sur la marche de l'économie elle-même. On ne peut laisser le pouvoir de décision sur cette économie à une minorité d'irresponsables capitalistes qui condamnent la majorité à la crainte du lendemain. Oui, il faudra envahir les conseils d'administration des grandes sociétés bancaires ou industrielles qui régentent la société. Les envahir, mais aussi les contrôler, ne serait-ce qu'en supprimant le secret des affaires. Ces gens-là et leurs serviteurs politiques ne parlent que de transparence, de démocratie. Mais dès que l'on s'approche un peu du vrai pouvoir, celui qui décide de la vraie vie, celle du travail, des emplois, du salaire, des profits, la démocratie et la transparence laissent la place au secret, au mensonge par omission ou au mensonge tout court. C'est la dictature revendiquée des vrais décideurs. Alors oui, il faudra également imposer notre contrôle sur tout cela. C'est de nos conditions de vie, de nos existences à nous et à nos familles qu'il s'agit. Et il n'y a aucune raison de les laisser faire sans contrôle. Eux, ils savent tout de nous, de nos salaires, de nos impôts, de nos comptes en banque. Eh bien, nous aussi, on veut tout savoir de leurs comptes, de leurs choix, de leurs plans, c'est-à-dire de leurs mauvais coups contre nous. Et on vérifiera par le menu ce que l'on sait déjà dans les grandes lignes. Leur parasitisme sur l'ensemble de la société, leur rôle nuisible dans son développement et la nécessité de les exproprier. Voilà ce que le camp des travailleurs doit faire entendre à chaque occasion. Voilà pourquoi ceux qui ne se résignent pas à subir doivent s'exprimer à l'occasion des élections européennes. D'autant que la situation qui nous est faite ici, en France, on la retrouve également dans les autres pays d'Europe. Et ce que nous disons ici, on pourrait tout à fait le traduire dans toutes les langues d'Europe. Parmi les politiciens ou les journalistes, qu'ils soient euro-angéliques ou euro-sceptiques, il y a une quasi-unanimité pour adopter les préoccupations de la bourgeoisie. Et s'il est un domaine où ces gens-là sont devenus experts, c'est bien dans l'art de diviser les travailleurs, de les opposer les uns aux autres, et plus particulièrement entre origine et entre nationalité. C'est une constante chez eux, un effort permanent, car c'est aussi ainsi qu'ils comptent nous faire accepter leur sale coup. Ainsi, par exemple, après les mesures de Valls annonçant le gel du salaire des fonctionnaires, des pensions et des allocations, il s'est trouvé des politiciens et des journalistes pour les relayer, pour nous dire qu'on devait s'estimer heureux, parce que ailleurs, en Grèce, en Italie ou en Espagne, ce n'est pas le gel des salaires et des pensions que les gouvernements de ces pays avaient décidé, mais leur baisse en valeur absolue. Mais il faut vraiment être journaliste et avoir un budget sans contrainte pour ne pas comprendre que des revenus gelés, alors que les prix, les loyers, le gaz, l'électricité augmentent, cela revient aussi à une baisse absolue de notre pouvoir d'achat. Mais en soulignant cela, les journalistes ne font que souligner une évidence. Dans l'Europe du Nord ou dans l'Europe du Sud, dans les pays les plus riches comme dans les moins riches, partout, les travailleurs sont confrontés à la même guerre sociale, à la même offensive de la bourgeoisie pour leur faire payer la crise, pour nous faire payer la crise. Car s'il existe en Europe une unité qui fonctionne, c'est bien l'unité des politiques d'austérité menées par les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou qu'ils se prétendent socialistes. Tous les gouvernements de l'Europe sont des bons serviteurs des grands groupes industriels ou financiers. Et tous mènent des attaques en règle contre les conditions d'existence de la classe ouvrière et de la population. Que les travailleurs parlent l'anglais ou le slovène, qu'ils soient payés en euros ou en livres sterling, tous ont vu leurs conditions de travail et leurs conditions d'existence se dégrader. Qu'ils vivent à Chypre, en Croatie ou en Allemagne, tous ont vu leur salaire réel baisser et leurs impôts augmenter. Partout, le chômage augmente. Partout, le patronat généralise la flexibilité et intensifie le rythme de travail. Partout, il s'attaque aux services publics, aux hôpitaux, à l'éducation, pour dégager des dizaines de milliards pour payer les intérêts aux banquiers et aux spéculateurs. La seule différence, c'est que dans certains pays, le patronat est allé plus vite et plus fort dans son offensive. Nous avons tous en mémoire la Grèce et les reculs sans précédent imposés aux travailleurs de ce pays. Depuis 2010, les travailleurs grecs ont eu à subir une cascade de plans d'austérité. Et chaque nouveau plan est pire que le précédent. Aujourd'hui, un tiers de la population active, un travailleur sur trois est au chômage en Grèce. Et chez les jeunes, c'est près de 2 sur 3 qui se retrouvent sans emploi. Et ce n'est pas fini. Les milliers de licenciements annoncés chez les fonctionnaires grecs vont se rajouter à la disparition de 200 000 emplois dans la fonction publique depuis 2010. Dans un petit pays de 11 millions d'habitants, c'est énorme et c'est une catastrophe sociale. Cette catastrophe se traduit également par le nombre de suicides qui a doublé en Grèce, par le nombre de meurtres en hausse, tout comme le recours à la prostitution. La dégradation sanitaire est sans précédent. Les gens n'ont plus les moyens de se soigner et les médecins bénévoles sont débordés. Tout un peuple est plongé dans l'abîme, mais les banques s'en sauvent. C'est ce que les commentateurs ont appelé le sabotage de la Grèce par l'Union européenne. On ne saurait mieux décrire la folie de ce système. En Espagne, en Italie ou au Portugal, le scénario est sur la même voie. Ainsi, depuis 5 ans, les travailleurs d'Espagne subissent de plein fouet les conséquences de la crise. 4 millions d'emplois ont été supprimés. Les statistiques officielles annoncent plus de 6 millions de chômeurs, soit plus de 27% de la population active. 2 millions d'entre eux sont au chômage depuis plus de 2 ans et donc sans allocation chômage. Et le chômage des jeunes atteint près de 60%. Près de 2 millions de ménages ne disposent pas de revenus liés à un emploi parce que tous les membres de la famille sont sans emploi. La situation est tellement catastrophique que près de 300 000 jeunes espagnols n'ont pas trouvé d'autre solution que de quitter leur pays pour trouver un emploi, comme cela se faisait au milieu du XXe siècle. Et pourquoi un tel naufrage social ? Là encore, des centaines de milliards d'euros ont été dépensés par tous les gouvernements, de droite et de gauche, pour renflouer les banques en vidant les caisses publiques et en aggravant la dette. Cela n'a pas remis l'économie en marche et cela n'a aucunement protégé en quoi que ce soit les pauvres. Mais cela a permis à la bourgeoisie espagnole, comme à ses comparses d'Europe, de se refaire une santé. Voilà la vérité. Dans les pays de l'Europe du Sud, les étiquettes des gouvernements ont valsé, de gauche à droite, de droite à gauche. Et quelle que soit leur couleur, leur politique a été la même. C'est la même qu'ici, faire payer les pauvres, les travailleurs, les ouvriers, pour sauver les riches, les bourgeois, les capitalistes. Mais en Grèce, en Espagne et au Portugal, la crise économique et ses conséquences dans les classes populaires et dans la jeunesse, les reculs imposés à toute la société par les mesures d'austérité, eh bien, elles ont suscité des réactions multiples. Et si jusque-là, ces mobilisations, ces grèves, ces manifestations n'ont pas trouvé les voies et les moyens de se généraliser, elles sont cependant un espoir pour l'avenir. Dans ces mobilisations, des hommes, des femmes, des jeunes, tout en renouant avec les idées de la lutte de classe, pourront identifier leurs faux amis. Ils pourront également constater qu'au-delà des frontières, c'est une même classe sociale, la classe ouvrière dans son ensemble qui est visée. Ils pourront vérifier qu'ils représentent une force politique qui a les moyens, en se regroupant, en se coordonnant, non seulement de revendiquer pour sa survie, mais aussi de contester le pouvoir de cette bourgeoisie parasitaire et inutile. Ce faisant, ils pourront donner envie aux travailleurs des autres pays qui subissent les mêmes politiques de faire de même. Car quand la classe ouvrière se bat dans un pays, son combat est celui de tous les travailleurs. d'Europe du Sud, comme d'ailleurs ceux de l'Europe de l'Est, nous commençons également à bien les subir ici en France, comme d'ailleurs en Allemagne ou dans cette Angleterre qui, pour ne pas être dans l'euro, n'en est pas moins dure pour les conditions de vie des travailleurs. Et pour ce qui est de l'Allemagne, les attaques pleuvent. Déremboursement des médicaments, abaissement du taux de remplacement des retraites à 50%, généralisation du travail précaire et des emplois sous-payés, ce qui s'appelle les mini-jobs, qui sont pratiquement exonérés de charges sociales, licenciement facilité, réduction des indemnités chômage, les lois Hartz ont fait reculer la condition ouvrière en Allemagne de plusieurs années. Au bout d'un an de chômage, les travailleurs ne reçoivent plus que, en tout et pour tout, l'aide sociale, c'est-à-dire 382 € pour une personne seule, même après toute une vie passée sur les chantiers ou à l'usine. Le but de toutes ces mesures est de contraindre les chômeurs à accepter des emplois payés à 4 ou 6 € de l'heure. Des emplois qu'on compte aujourd'hui par millions dans le privé. Dans le public, les maisons de retraite et autres associations, il y a même des jobs à 1 € de l'heure. Au total, en Allemagne, un quart des travailleurs touchent moins de 9 € de l'heure. Cela fait de l'Allemagne l'un des pays de l'Europe avec la plus forte proportion de travailleurs pauvres, plus qu'en Hongrie, qu'en Espagne ou qu'au Portugal. Tout cela pourquoi ? Pour que les millionnaires et les milliardaires se comptent toujours plus nombreux et pour que les profits des entreprises soient toujours plus impressionnants. Eh bien, en Allemagne, en Espagne comme en France, les travailleurs doivent faire entendre leur camp contre le patronat et son gouvernement. Pour conclure, je redirai qu'avec notre liste, nous voulons permettre aux travailleurs ici en France d'exprimer une opposition claire et sans ambiguïté aux attaques du grand patronat et à celles des gouvernements à son service. Ce sera une façon de ne pas laisser le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite en affirmant une opposition ouvrière, en faisant entendre le camp des travailleurs. Et les intérêts immédiats des travailleurs sont les mêmes d'un bout à l'autre de l'Europe et ils sont très simples. Un emploi pour tous et un salaire décent pour tous. Quand il y a des luttes dans des groupes de dimension européenne, que ce soit chez Continental comme on l'a vu, chez Airbus ou chez Renault ou chez Total, c'est au niveau européen qu'elles peuvent et qu'elles doivent se mener. Oui, il sera nécessaire de lutter à ce niveau, ensemble, parce que les entreprises sont à l'échelle du continent quand elles ne sont pas mondiales. La bourgeoisie n'a qu'une politique par-delà les frontières, faire payer les travailleurs, les pauvres, pour satisfaire sa soif de profit. Le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents, constitue une même classe sociale qui doit lui opposer un programme pour ses luttes. L'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, l'échelle mobile des salaires, le contrôle sur les entreprises. Cela peut et cela doit se lire dans toutes les langues. Cette solidarité de classe dans le combat contre la bourgeoisie, c'est cela qui dicte nos prises de position politiques. Les élections européennes nous offrent aussi l'occasion d'affirmer nos convictions dans un avenir communiste qui vont de pair avec nos convictions internationalistes. Mais pour évoquer ces perspectives plus générales concernant l'avenir de la société, je vais passer la parole à Nathalie.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, plus ça va et plus on se dit que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas continuer avec tout ce chômage, avec ces sacrifices et cette misère. Et tout ce que le gouvernement prétendument socialiste trouve à dire, c'est que si, cela doit continuer et ça va même être plus dur. Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des décennies, a même dit Valls, en annonçant une nouvelle série d'attaques contre le niveau de vie des classes populaires. Mais qui vit au-dessus de ses moyens ? Les retraités, à qui on vole toute une part de leur pension depuis des années, Les chômeurs, privés de boulot. Les travailleurs qui sont à découvert le 10 du mois. Il y a de quoi être écœuré par ces leçons de morale. Surtout quand on sait comment ces messieurs se conduisent à la tête de l'État. Prenez cet Aquilino Morel, l'ex-conseiller de Hollande, qui en plus d'être suspecté de conflit d'intérêts, faisait venir dans un salon de l'Élysée un cireur de chaussures professionnel. Et on ne peut qu'être écœuré quand on sait que les banquiers se sont remis à se distribuer des salaires exorbitants, que les milliards dégoulinent des poches de la bourgeoisie et que le luxe et la spéculation prospèrent. Et c'est pour ça qu'il faudrait se priver. C'est pour ça que le gouvernement est en train de démanteler la sécurité sociale. Eh bien, il faut dire qu'on n'est pas dupe, qu'on n'est pas d'accord. Si Valls semble aussi assuré, et donc aussi droit dans ses bottes, malgré la raclée électorale du Parti Socialiste et le désaveu donc de son propre électorat, c'est qu'il ne rencontre pas d'opposition à gauche digne de ce nom. Les parlementaires de la gauche du Parti Socialiste qui se sont dit humiliés et qui ont fait mine de s'opposer se sont écrasés, lamentablement. Après avoir obtenu l'engagement verbal que Valls étudierait leurs propositions sur les petites retraites, ils ont avalé tout le reste. Quant à l'opposition formée par le Front de Gauche, par les dirigeants du Parti communiste et du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, elle ne voit de salut qu'en se raccrochant à ce genre de godillots du Parti socialiste, et aux écologistes aussi, qui ont certes quitté le gouvernement, mais qui restent dans la majorité. Du côté des chefs des confédérations syndicales, ce n'est pas mieux. La provocation de Valls aurait exigé une riposte immédiate. À la place, les travailleurs n'ont plus droit qu'aux lamentations et aux pleurnicheries de Berger, Le Pen et Mailly sur le manque de dialogue social. Ces gens-là se posent en représentants du monde du travail, mais ils sont mille fois plus proches des dirigeants de la bourgeoisie qu'ils ne le sont des travailleurs. Voilà leur vraie nature. Et leur lâcheté est une lâcheté sociale. Pour les forcer à prendre des initiatives sérieuses, il faudra, comme à chaque explosion sociale, que la colère et la combativité des travailleurs les poussent en avant. Alors, malgré toutes leurs limites, il faut que les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients profitent des occasions fournies par les confédérations syndicales pour exprimer leur refus de la politique du gouvernement et pour affirmer leurs exigences. La manifestation du 1er mai, mais surtout celle du jeudi 15 mai, appelée par les représentants de la fonction publique, seront des occasions à saisir. Les dirigeants syndicaux de la fonction publique ne sont pas plus radicaux que les autres, mais il se trouve qu'ils avaient lancé cet appel de longue date pour protester contre le gel des salaires. Et ce gel des salaires dans la fonction publique a bel et bien été confirmé. Alors dans le contexte actuel, cette manifestation peut être le point de ralliement pour tous ceux qui veulent dénoncer le plan Valls et ses attaques tous azimuts contre les retraités et contre les prestations sociales qui n'ont qu'un but et un seul, prendre dans la poche des pauvres pour donner aux plus riches. Alors, où que nous travaillons, faisons en sorte d'être le plus nombreux possible à participer à ces deux journées. Tant que Valls n'a affaire qu'à des hommes de gauche complices et à des dirigeants syndicaux pleutres, les mouvements de menton lui suffiront pour passer en force. Mais si demain, le désaveu des classes populaires qui s'est exprimé dans les élections s'exprimait aussi dans la rue, il en irait tout autrement. Dans tous les cas, Sandra l'a dit, les travailleurs doivent profiter de cette campagne électorale des européennes pour se faire entendre. Aux élections municipales, nous avons présenté dans les villes où nous avons pu des listes lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Une fraction modeste de la classe ouvrière a voté pour ces listes pour rejeter la politique du gouvernement et dénoncer du même coup l'exploitation patronale. Les européennes leur donnent l'occasion de refaire le même geste, d'affirmer qu'ils sont toujours là, de montrer qu'il y a des travailleurs qui refusent de laisser le terrain électoral à la bourgeoisie et qu'ils continueront de se faire entendre. Sur le chômage, sur les services publics, sur la dette, sur la compétitivité, les travailleurs ont à mettre en avant leur politique propre, leur politique qui est aux antipodes de celle de la bourgeoisie. C'est vrai aussi sur l'Europe. sur l'Europe. Les politiciens de la bourgeoisie vont nous enfumer avec leurs débats sur le protectionnisme. Ils vont gloser sur l'élargissement ou sur le rétrécissement de l'Union européenne. Beaucoup, au premier rang desquels le Front National, vont nous dire que tout est de la faute de Bruxelles et qu'il faut considérer les travailleurs des autres pays d'Europe comme des concurrents, des adversaires, des ennemis. Mais des adversaires, ceux qui aux quatre coins du monde et d'Europe subissent le même sort que nous, les mêmes licenciements, les mêmes blocages de salaire, la même démolition des services publics, des ennemis, ceux qui, comme nous, sont sous le diktat des banques et des grands groupes industriels, des concurrents, ceux qui viennent travailler sur les grands chantiers de construction en France, non, des travailleurs, comme nous tous ici, des exploités, bien forcés d'aller là où ils peuvent pour gagner leur croûte. La classe ouvrière est internationale par nature. Partout où le capitalisme s'est imposé, il a généralisé la condition d'exploité à l'immense majorité de la population. La classe ouvrière existe non seulement à l'échelle de tous les pays, mais elle est mélangée depuis toujours. Il est aujourd'hui beaucoup question des travailleurs détachés roumains ou bulgares qu'on voudrait nous présenter comme nos concurrents. Mais combien de paysans italiens, algériens, marocains ont été détachés de leurs champs tout au long du XXe siècle pour venir travailler dans les mines, sur les ports ou dans les usines de montage. Au XIXe siècle déjà, Londres, Paris, les grands chantiers de construction de chemins de fer ou les régions minières étaient des points de rassemblement de travailleurs français, allemands, anglais, irlandais, belges, polonais. Comme aujourd'hui, la bourgeoisie a toujours cherché à profiter de la misère ouvrière pour mettre en concurrence les travailleurs, casser les salaires et aggraver l'exploitation. Mais les travailleurs n'en sont pas restés à se regarder en chien de faïence. Ils y ont répondu de la seule manière possible, en s'organisant et en combattant ensemble. Le mouvement ouvrier, à l'image de la classe ouvrière, a toujours été international. Sur les barricades de 1848, les Gavroches ont côtoyé des ouvriers italiens, allemands, suisses, Belge. Le premier gouvernement ouvrier, la Commune de Paris, de 1871, avait nommé à sa direction un Hongrois, Frankel, et avait nommé un Polonais, Dombrowski, à son commandement général. La première grande organisation ouvrière fut l'Association internationale des travailleurs, créée à Londres en 1864, sur la base de liens existants entre les ouvriers de toute l'Europe. Karl Marx résuma son but en deux phrases. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et c'est sur cette base que se développèrent dans les années suivantes les premiers partis ouvriers nationaux. Pour les dirigeants qui étaient Marx, Engels, Lénine ou Rosa Luxembourg et dont l'internationalisme était chevillé au corps, il était évident que le combat des travailleurs était un combat international. Mais ça l'était aussi pour un grand nombre de militants. Un combat international, symbolisé entre autres par la journée du 1er mai, où il s'agissait pour les travailleurs du monde entier de manifester le même jour, de faire grève le même jour, en bravant les interdits patronaux et en s'affrontant bien des fois aux troupes armées promptes à tirer sur les manifestants. Le 1er mai était bien plus qu'une journée revendicative au cours de laquelle les ouvriers demandaient la journée de 8 heures. C'était une démonstration de force de la classe ouvrière et à l'échelle du monde. C'était la démonstration que les travailleurs organisés étaient une force politique capable de s'allier, de se coordonner pour contester le pouvoir à la bourgeoisie. La conscience de classe va donc de pair avec la conscience internationaliste. C'est la conscience qu'au-delà de leurs différences et au-delà des nationalités et des frontières, les travailleurs ont les mêmes intérêts et forment une seule et même classe sociale. C'est la conscience que ce qui oppose les hommes, ce ne sont pas les frontières géographiques, mais les frontières sociales, les frontières de classe qui divisent la société entre exploités d'un côté et exploiteurs de l'autre. C'est le rejet du nationalisme, c'est le rejet du chauvinisme. Cette conscience, elle n'est pas innée. Elle se transmet et elle se construit. Et ce fut justement le rôle des organisations ouvrières dans le passé. Ce qu'elles ne font plus aujourd'hui. en se plaçant, comme les politiciens bourgeois, sur le terrain du nationalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'extrême droite jusqu'au Front de gauche inclus, tout le monde aborde les questions de l'Europe ou les relations internationales d'un point de vue national. Qu'est-ce qui sera bon pour la France? Qu'est-ce qui sera bon pour l'économie du pays? Mais autant se demander ce qui sera bon pour Bouygues, pour Peugeot ou pour Bettencourt, car les intérêts de la France sont toujours les intérêts de la bourgeoisie française, jamais ceux des travailleurs et des exploités. Eh bien, les travailleurs conscients doivent opposer à tout ce monde-là leur point de vue de classe et leur internationalisme, et se demander qu'est-ce qui sera bon pour les travailleurs, et qu'est-ce qui sera bon pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité et leur origine. L'internationalisme n'est pas qu'une question de solidarité entre exploités. Ce n'est pas non plus qu'une question d'efficacité dans le combat. C'est la seule issue pour l'humanité. C'est la conviction que les travailleurs ne pourront pas s'émanciper dans un seul pays. C'est la conviction que les luttes des travailleurs dans quelques pays que ce soit font avancer le sort de tous. C'est la conviction que le combat des uns est le combat de tous. Il n'y a pas de société plus folle que cette société capitaliste. Pourquoi sommes-nous plongés dans une crise dont personne ne voit le bout? Non pas parce qu'il manque de bras pour produire. Des millions de travailleurs sont condamnés au chômage. Pas parce qu'il manque des usines. Des dizaines, si ce n'est plus, sont fermées chaque jour en Europe. Pas parce qu'il manque des capitaux. Des milliards sont gâchés, dilapidés dans des dépenses extravagantes, ou pire encore, dans la spéculation. Près d'un milliard de personnes sont condamnées à la sous-alimentation dans le monde et menacées de famine. Alors que nous produisons de quoi nourrir deux fois la population de la planète. Des centaines de millions d'êtres humains sont privés de l'accès à un logement digne de ce nom, à des soins convenables, à la culture, voire simplement à de l'eau potable. Pourquoi? Eh bien à cause des lois du capitalisme. Parce que les capitalistes ne produisent que pour ceux qui sont solvables, parce qu'ils n'investissent que dans ce qui est le plus rentable, parce qu'ils préfèrent le gain rapide de la spéculation à celui moindre de la production. Parce qu'au lieu d'organiser rationnellement la production et de savoir ce qu'il faut produire, où et comment, les capitalistes sont lancés dans une concurrence à mort. L'économie capitaliste étouffe sous le coup de ses propres contradictions. Elle étouffe sous l'effet de la loi du profit, de la propriété privée et de la concurrence. Mais à toutes ces contradictions internes se rajoute le morcellement du monde en états nationaux. Alors que l'économie est internationalisée depuis bien longtemps déjà. La seule issue pour l'humanité est de renverser le capitalisme et de fonder l'économie sur des bases collectives. Mais cette économie ne peut pas fonctionner autrement que sur une base mondiale. Faut-il rappeler que sans le commerce avec l'Afrique, avec l'Asie, le Moyen-Orient, sans le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle? Cette première mondialisation, qui a été l'œuvre de la bourgeoisie montante, s'est faite de rapines, de pillages et de meurtres à grande échelle. Mais elle a été la base du développement même du capitalisme et de l'industrie. Depuis lors, les échanges internationaux n'ont fait que s'intensifier. Les capitaux se sont mêlés, les travailleurs aussi. Le marché est devenu mondial. Les agriculteurs se fournissent et vendent sur le marché mondial. La moindre usine travaille pour ou avec des entreprises étrangères. Pour être fabriqué, le moindre produit nécessite une chaîne d'échanges internationaux. Et bien malin, celui qui voudrait consommer 100% français. Un journaliste s'y est frotté en essayant de vivre pendant un an Made in France. Il s'est débarrassé de 95% de son mobilier et de ses appareils électriques. Il a remplacé le café et le thé par la chicorée et le jus de pomme. Grand déchirement, paraît-il, il a dû se passer de ses jeans, de son réfrigérateur et de son coupe-ongle. C'est pas facile pendant un an. Tout cela n'étant plus fabriqué en France, et il a dégoté une vieille mobilette. Il n'est quand même pas allé jusqu'à chercher avec quel acier et quel bois était fabriqué son Opinel. Quant à sa mobilette, elle ne roulait sûrement pas au vin rouge. Et pas fou non plus. Il n'a pas poussé son expérimentation jusqu'à rechercher une énergie 100% française, ce qui l'aurait sans doute forcé à s'éclairer à la bougie, à supposer même qu'il y ait des bougies et des allumettes 100% françaises. Ce qui est sûr, c'est que même édulcoré, son expérience ne risque pas de faire des émules. Mais reconnaissons-le, il a eu le mérite de payer de sa personne. Quand un Montebourg chante pourtant du Made in France, s'est contenté de porter une marinière pendant 3 minutes le temps d'une photo. Eh bien, Montebourg ressemble à tous ces bonimenteurs de foire payés pour raconter et pour vendre n'importe quoi à des gogos, et c'est tout aussi choquant que cette idée stupide de démondialisation. La mondialisation est un fait. L'imbrication de l'économie à l'échelle de la planète est telle qu'il est impossible de revenir en arrière sans imposer des privations sans fin et une régression effroyable. Produire chacun chez soi, installer des usines sidérurgiques en Creuse ou cultiver des oranges en Grande-Bretagne, par exemple, est une idée réactionnaire et une stupidité parfaite. Ce sont les échanges de matières premières, les échanges de technologies, de produits, de capitaux, d'idées et d'hommes qui irriguent l'économie et lui permettent d'avancer. Bien sûr, cette économie avance surtout au profit d'une minorité. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est cela. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce sont les rapports de domination, le pillage, le sous-développement et les répercussions néfastes qui en découlent sur l'environnement et sur la planète. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce n'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. Les millions de liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus productif que jamais s'est développé. Et cela, il ne faut pas le détruire, mais il faut le maîtriser. Il faut que les travailleurs le reprennent à leur compte, de sorte qu'il serve à l'humanité tout entière. Cela nécessite de se débarrasser de la dictature d'un nombre restreint de groupes industriels et financiers en concurrence les uns avec les autres. De faire en sorte que ces immenses possibilités scientifiques, technologiques et productives de la société ne soient plus subordonnées à la recherche du profit. Les multinationales, sous le contrôle des capitalistes, ont un grand pouvoir de nuisance. Mais ces mêmes multinationales, mises au service de la population, pourraient être demain des outils fantastiques pour maîtriser notre vie économique, pour l'organiser consciemment, rationnellement, de façon à économiser les ressources et de façon aussi à combattre la pollution. Alors aucun des grands problèmes qui se posent à l'humanité aujourd'hui, qu'il s'agisse de nourrir toute la planète, de guérir de maladies meurtrières, de pourvoir le monde entier en énergie, en transport, en logement ou en éducation, ne peut être résolu avec le repli national. Toutes ces questions se posent désormais à l'échelle de la planète. Et s'il revient aux travailleurs de prendre le pouvoir et d'organiser la production, c'est bien à cette échelle-là qu'ils devront le faire. Européenne allait dans le sens d'une société plus solidaire et plus prospère. Les dirigeants politiques de la bourgeoisie à l'origine de l'Union européenne l'ont prétendu d'ailleurs. Daniel Cohn-Bendit l'a encore affirmé la semaine dernière avec beaucoup de trémolo dans la voix alors qu'il tirait sa révérence au Parlement européen. Vous l'avez peut-être entendu. Mais la construction européenne n'a pas été l'œuvre d'idéalistes inspirés par le désir de mettre fin aux guerres et de fonder les relations inter-européennes sur l'amitié entre les peuples. Elle a été l'œuvre de banquiers, d'industriels, de marchands obsédés par la concurrence et contraints, pour leurs affaires, de faire sauter un certain nombre d'obstacles. Pour les bourgeois d'Europe, la construction de l'Europe a été tout à la fois une nécessité et une impossibilité. Une nécessité parce que l'industrie française ou allemande, en commençant par l'industrie sidérurgique, ne pouvaient pas se développer dans les frontières étroites des marchés nationaux, parce qu'elles ne pouvaient pas espérer jouer dans la cour des États-Unis ou du Japon sans faire un grand marché européen. Mais une impossibilité aussi, parce que chaque bourgeoisie voulait bien accéder au marché du voisin, tout en continuant à protéger son propre marché. Parce que chaque gouvernement voulait bien des institutions européennes, tout en conservant ses propres prérogatives. La bourgeoisie voulant bien sûr compter sur la protection de son État, sur le personnel politique qui lui est dévoué, sur les fonds publics qui lui sont traditionnellement réservés. Le résultat de tous ces compromis et de toutes ces contradictions, c'est l'Union européenne que l'on connaît. Une espèce de mariage de raison où chacun fait chambre à part, défend son précaré et où on ne met surtout pas son compte bancaire en commun. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que la construction européenne est une histoire longue et compliquée, dans laquelle il faudrait d'ailleurs inclure les deux guerres mondiales, qui ont aussi été des tentatives d'unifier l'Europe. Après 30 ans de construction, l'Union européenne ne comptait que 12 membres. Aujourd'hui, au bout de 60 ans, elle en compte 28, mais elle n'englobe toujours pas toute la moitié orientale de l'Europe. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, sans parler de la Turquie. Et si des voix s'élèvent aujourd'hui, ce n'est pas pour élargir l'Europe, mais c'est pour la rétrécir. L'attitude des dirigeants européens vis-à-vis de l'Ukraine est à cet égard éloquente. Oh, ils ont envie de se montrer à Kiev. Ils affichent leur solidarité avec les nouveaux dirigeants pro-occidentaux, mais ils laissent les frontières de l'espace Schengen bien fermées pour les Ukrainiens, et ils n'ont nullement envie de les intégrer dans l'Union européenne. Même de son point de vue, même pour ses intérêts, la bourgeoisie est incapable de faire vraiment l'unité de l'Europe. Quant au fait qu'en 60 ans de construction, rien n'est avancé sur le terrain des droits démocratiques et sociaux, il ne faut pas en être surpris. L'Union européenne a été conçue et créée par et pour les intérêts des capitalistes. Il n'a jamais été question de créer un espace où les salaires, les droits sociaux, même les droits des femmes soient alignés vers le haut. Que les salaires roumains ou bulgares soient 5 à 10 fois inférieurs aux salaires allemands ou français. Que Malte, Chypre, la Pologne ou l'Irlande continuent d'interdire l'avortement et que le gouvernement espagnol l'envisage sérieusement. De tout cela, les dirigeants européens s'en moquent complètement. Parler d'Europe sociale, c'est bon pour les campagnes électorales, mais cela n'engage à rien. Même un droit aussi élémentaire que la libre circulation des personnes n'est pas complète aujourd'hui. Par exemple pour les Roumains, pour les Bulgares ou pour les Croates. Quant aux Roms, l'Union européenne ne leur laisse que l'étroite possibilité d'errer et d'être chassés d'un pays à un autre. Alors ce que les dirigeants politiques ont appelé la construction européenne n'est qu'une histoire de marchandage sordide où les travailleurs et les plus pauvres n'entraient dans leurs calculs qu'en exploités, voués à subir. Alors non, il n'y a rien à attendre de ces institutions européennes. Les institutions européennes ne sont rien d'autre que des instruments de la domination du capital. Mais comme le sont les institutions françaises. Il est stupide d'opposer les responsables de Bruxelles ou d'Europe à ceux de France. Ce sont les mêmes politiquement, voire ce sont les mêmes tout court. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit voulue, ou de moins avalisée par les gouvernements nationaux, au premier rang desquels il y a le gouvernement français. Quant à celui-ci, il ne prend aucune décision économique, de quelque importance que ce soit, sans que celle-ci ne soit elle-même avalisée par le grand patronat. Ceux qui prétendent que les coûts contre les services publics, contre les quelques articles de loi protégeant les travailleurs viennent de Bruxelles, des institutions européennes ou de Merkel, visent à dégager la responsabilité de chacun des gouvernements et à dédouaner ces gens-là qui sont les laquais de la bourgeoisie. Non, Merkel ne mène pas Hollande par le bout du nez. Ce n'est pas l'égoïsme allemand qui en fait baver à toute l'Europe. Les dirigeants français et allemands sont d'accord pour faire ce que les financiers leur demandent. Ils ont été d'accord pour étrangler les travailleurs grecs ou espagnols. Ils ont été d'accord pour imposer à tous les États des politiques d'austérité. Les peuples d'Europe, à commencer par les Grecs, les Portugais, les Espagnols et les classes populaires des pays de l'Est, ont de quoi haïr cette Europe et de quoi s'élever contre les représentants européens les plus puissants. De la construction européenne, ils n'ont vu que les banques et les multinationales françaises ou allemandes se comporter en prédateurs. De l'Europe, ils n'ont vu que leurs huissiers, leur demandant d'abandonner les maigres protections dont ils disposaient. Ils n'ont vu que la crise, les condamnant au chômage. Mais encore une fois, l'Europe, l'Allemagne, la France, la Grèce sont des paravents derrière lesquels se cache la domination des industriels et des financiers de toutes les origines. Poser les problèmes en termes nationaux, c'est faire oublier qu'il y a des exploités et des exploiteurs dans tous les pays. N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, l'Allemagne n'est pas un pays de nababs retraités qui suce le sang des travailleurs jeunes, des travailleurs français, jeunes et productifs, comme il le laisse entendre. L'Allemagne, c'est aussi ces millions de travailleurs allemands, ces travailleurs turcs qui vivotent avec 700, 800 euros par mois tout en travaillant dur. Et regardez, comment après avoir accusé les Grecs de vivre au-dessus de leurs moyens, ils osent dire cela de nous aujourd'hui. Alors, être sensible à ce genre d'arguments nationalistes quand il s'agit des Grecs ou quand il s'agit des Allemands, opposer les peuples les uns aux autres et ne pas voir les responsabilités de nos propres gouvernements, c'est se condamner à subir à bas le nationalisme. Le Pen est sans doute celle qui crie le plus fort contre l'Europe. À l'entendre, tout est de la faute à l'Europe, de la Commission européenne, de Bruxelles. Rien du patronat, rien de la rapacité patronale. Le grand patronat, ses bénéfices, ses dividendes, l'exploitation et les bas salaires qu'il impose, ça n'existe pas pour elle. Parce qu'elle est complice. Pour Le Pen, comme pour les autres, l'exploitation est dans l'ordre des choses. Elle est normale. Et les travailleurs sont voués à subir. Le Pen fait de la démagogie. Elle plaint les travailleurs. Elle verse une larme sur les retraités modestes et sur les chômeurs. Mais elle n'a rien contre le système qui les écrase. Plus Le Pen dénonce le diktat de Bruxelles, plus elle détourne la colère des travailleurs vers une voie sans issue. D'autant plus qu'elle contribue à distiller le poison du nationalisme et de la xénophobie et qu'elle divise et affaiblit la force des travailleurs. Eh bien, il ne faut pas accepter cette politique de division. L'ennemi des travailleurs, c'est le patronat. Ce n'est pas la Commission européenne qui a soufflé à Gattaz cette idée de payer les jeunes en dessous du SMIC. Quand Carrefour ou Auchan fixe des salaires de misère, impose des temps partiels, des horaires insupportables, ce n'est pas l'Europe. Quand la Redoute, Fagorbrand ou Astrium suppriment des emplois, ce n'est pas l'Europe non plus. Le carcan, ce n'est pas l'Europe, c'est la loi du profit. Et le verrou qu'il faut faire sauter, c'est le pouvoir absolu de la bourgeoisie, des financiers. C'est cette dictature qui pèse sur les travailleurs, que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Les travailleurs conscients savent que toutes les institutions européennes leur sont opposées. Mais croire qu'inversement, l'État-nation nous protège est une erreur grossière. Croire que le repli sur les frontières nationales et le protectionnisme pourraient être d'un quelconque secours pour les travailleurs est un leurre. Le protectionnisme, qu'il soit xénophobe version Marine Le Pen, prétendument solidaire version Mélenchon, ou gouvernemental version Montebourg, forme un seul et même piège. Le protectionnisme, c'est d'abord des taxes en plus pour les consommateurs. Tout le monde se plaint aujourd'hui des taxes, des augmentations d'impôts. Eh bien, le protectionnisme, c'est un impôt supplémentaire sur tout ce qui est importé. Les produits bon marché, qui permettent justement aux plus pauvres de joindre les deux bouts, seront renchéris. C'est sûr, cela ne posera pas de problème aux plus riches. Mais aux familles populaires, si. Et la baisse de l'euro, voire la sortie de l'euro, aura exactement les mêmes conséquences. Car baisser la valeur de l'euro, c'est aussi augmenter le prix de tout ce qui est importé, en particulier celui du pétrole. Pour tous les travailleurs qui hésitent à faire le plein de carburant, ce sera bien plus difficile encore. L'objectif de toutes ces mesures protectionnistes est, nous dit-on, de remplacer les produits d'importation par des produits made in France pour créer des emplois. À condition que ces messieurs les capitalistes veuillent bien investir et trouvent un quelconque avantage à produire ces produits en France. Prenez un secteur comme le bâtiment, celui de la prenez le secteur du bâtiment et de la construction de logements. Il manque aujourd'hui 1 million de logements à des prix abordables pour un salaire de travailleur. C'est un secteur relativement protégé de la concurrence internationale. C'est du tout cuit pour les Bouygues, pour les Vinci et autres marchands de béton. Mais ce n'est pas assez rentable à leur goût. Et ils préfèrent se lancer dans des partenariats publics-privés bien plus juteux, voire dans la construction de tours de 800 mètres de haut à Dubaï. Alors faire croire que le protectionnisme via des taxes ou la baisse de la monnaie relancera automatiquement la production, l'industrie, la croissance et les emplois est une fumisterie. Croire que l'on pourrait arrêter les importations tout en continuant de vendre nos propres produits à l'étranger est d'ailleurs un conte de fées. Même en admettant que le protectionnisme ou la baisse de l'euro fasse regagner des parts de marché à certaines entreprises, qu'est-ce que les travailleurs y gagneraient ? La garantie que les licenciements et les fermetures d'entreprises cessent ? La garantie qu'ils n'auront plus à payer sous prétexte de rembourser la dette ? La garantie que dans la crise, le droit des travailleurs à la vie passe avant tout le reste ? Non, rien de tout cela. Le Pen, comme les autres politiciens bourgeois, veulent faire croire que lorsque les entreprises auront retrouvé leur compétitivité et leur prospérité, cela ira mieux pour les travailleurs. Mais la réalité, c'est que la compétitivité est là. La prospérité et les profits dans bien des entreprises sont là, mais les travailleurs, ils n'en voient pas la couleur. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier en témoigne. Rien n'a jamais été donné aux travailleurs. Et tout ce qu'ils ont obtenu, les augmentations de salaire, les droits sociaux, ils les ont arrachés au patronat par leur lutte, par leur rapport de force. Eh bien, demain, il en ira de même. Alors, ne nous laissons pas détourner des combats que nous avons à mener. Les revendications pour sauver la peau des travailleurs et la politique sur l'Europe font partie d'un tout. Le programme de lutte des travailleurs et ses perspectives d'émancipation vont de pair avec l'internationalisme. Tout se tient. C'est le même programme, c'est la même vision communiste. Dans le combat contre la bourgeoisie, toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs seront opposés non pas à une bourgeoisie nationale, mais à la bourgeoisie mondialisée depuis longtemps. Car la bourgeoisie elle-même a été forcée par la logique propre de son système à dépasser les frontières. Elle a étendu son système sur toute la planète et elle a de fait rapproché les peuples et uni les exploités dans un sort commun. Et bien il faut en faire une force. L'ouvrier français, roumain ou allemand vivent la même exploitation, le même diktat patronal, la même galère de logement, la même tutelle du banquier. Ils peuvent même avoir le même patron. Alors, moins il y a de frontières, plus les occasions de tisser des liens sont nombreuses, mieux c'est pour le prolétariat. La bourgeoisie mise sur la résignation, sur les préjugés nationalistes. Elle mise sur le fait que les travailleurs ne sauront pas réagir s'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Ne tombons pas dans ce piège. Ayons une politique vis-à-vis des travailleurs nouveaux venus. Regroupons-les. Les exploités peuvent retourner la situation à leur avantage à condition d'avoir la volonté de s'unir autour d'une politique qui représente leurs intérêts de classe, de revendiquer au nom de tous et de faire de leurs compagnons d'exploitation des compagnons de combat. Dans les élections européennes du 25 mai, il faut que le camp des travailleurs qui s'est manifesté au municipal se fasse entendre à nouveau. Il faut que s'affirme l'existence d'une opposition ouvrière, l'existence d'un courant de femmes et d'hommes qui ne se résignent pas et qui défendent leurs exigences. Le vote lutte ouvrière permettra aux travailleurs de rejeter non seulement tous les politiciens au service de la bourgeoisie, à commencer par le gouvernement Valls-Hollande, mais de rejeter aussi l'ordre capitaliste lui-même. Il représentera sans ambiguïté les intérêts de classe des travailleurs en affirmant que ce n'est ni l'unification européenne, ni l'euro que les travailleurs ont à combattre, mais la dictature des financiers. Il représentera le combat de tous les travailleurs contre toutes les oppressions, contre les restrictions à la liberté de circuler, contre la chasse aux immigrés, contre les expulsions des sans-papiers. Voter lutte ouvrière, qui se revendique du communisme, c'est prendre la position la plus radicale contre les organisations d'extrême droite qui constituent une menace pour la classe ouvrière. C'est s'élever contre les préjugés réactionnaires xénophobes et racistes qui poussent sur le fumier d'une société capitaliste en crise. Voter lutte ouvrière, c'est opposer l'internationalisme à toutes les formes de démagogie nationaliste. Pour affirmer que le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents, constitue une seule et même classe sociale. Pour affirmer la nécessité d'une société débarrassée d'exploitation, que seule pourra réaliser l'action collective et consciente de la classe ouvrière de tous les pays, votez et faites voter pour les listes lutte ouvrière le 25 mai.